Merci à notre bon Père Céleste de nous avoir donné ton esprit qui a inspiré les Écritures. Ceux qui ont écrit ces livres ont été portés par l'Esprit. Ce n'est pas simplement leurs interprétations sur la vie, mais vraiment c'est ta parole. Et Père, nous sommes devant toi ce matin, nous voulons t'écouter. Parle-nous par cette parole, applique cette parole à nos cœurs, à ton esprit. Donne-nous de te voir, de mieux comprendre ta grandeur. Transforme-nous par cette connaissance. Prépare-nous aussi pour la suite de la semaine aussi. T'en prie, au nom de Jésus. Amen. Donc, chapitre 3, donc à la page 436. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir, et un temps pour construire, un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, j'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir, à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera. Et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil, à l'endroit désigné pour le jugement, se trouver la méchanceté. Et qu'à l'endroit désigné pour la justice, régnait la méchanceté. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera. Car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. Je me suis dit dans mon cœur à propos des humains que Dieu les mette à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. En effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux. Ils ont tous un même souffle. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, puisque tout n'est que fumée. Tout va au même endroit. Tout a été fait à partir de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des humains monte vers les hauteurs, et si le souffle de la bête descend dans la terre? J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il a fait. Voilà quelle est sa part. En effet, qui la ramènera pour qu'il voit ce qui sera après lui? Jusqu'ici, la parole de Dieu. Les femmes de l'Église ont réfléchi à la gestion du temps. Alors moi, je ne sais pas ce que l'oratrice Anne-Sophie a dit, j'y étais pas bien sûr. Et je ne sais pas si elle a parlé de ce livre de l'Ecclésiaste. Mais en tout cas, l'Ecclésiaste nous parle ce matin du temps. Il veut que nous gérions, ou peut-être il veut plutôt que nous vivions le temps que notre Créateur nous a donné, d'une manière sage et d'une manière qui honore notre Créateur. Alors on vit dans une société où tout est réglé par le temps, par l'horloge, tout est mesuré, chronométré, même facturé. Selon le temps. En région parisienne, tout semble être une course. Il faut faire un maximum de choses dans un minimum de temps. Il y a une pression énorme sur le temps. Il y a du temps passé dans les transports, dans les embouteillages, dans les files d'attente. On passe énormément de temps au travail. On aimerait sans doute passer plus de temps à la maison. Les Français adorent les temps de loisirs et surtout les temps de vacances. Les vacances sont attendues avec impatience. Ça rythme toute l'année. En tant que croyants, nous voulons privilégier le service et l'Église, nos frères et sœurs. Et ça prend du temps. Bien sûr, dans tout ça, on est conscient qu'on aimerait passer plus de temps, des temps de qualité avec nos conjoints, avec nos enfants, avec nos familles, avec nos amis. Et en parlant de cette manière-là, je suis conscient que peut-être certains d'entre vous ressentent au moment même certaines fatigues, une certaine tension. Comment gérer tout ça? Comment vivre tout ça? D'une manière qui honore notre Créateur. Alors ce matin, l'Ecclésiaste, comme on a vu ces dernières semaines, va sortir son aiguillon pastoral, ce bâton. Comme nous avons vu, il est un berger sage. Conduire. Il veut nous aider à vivre à la gloire de Dieu. Et c'est vrai, sur le moment, son aiguillon peut faire mal. Cet aiguillon est incrusté de clous. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 12. Et en effet, il sert à éclater nos illusions, même nos illusions religieuses. Non pas pour nous faire déprimer, non pas pour nous faire sombrer dans le désespoir, mais justement pour nous aider à voir clair et à vivre en conséquence d'une manière sage et réaliste. Alors, il commence dans cette section, dans ce chapitre, avec un poème. C'est notre premier point pour ce matin, intitulé « Le compte à rebours de nos vies ». Puis dans un deuxième temps, on va voir ça en trois temps, il parle de Dieu et comment Dieu est bien différent de nous. On va voir donc deuxième point, Dieu est immortel. Troisièmement, Dieu règne. Quatrièmement, Dieu sait toutes choses. Donc on va commencer avec ce premier point et ce poème. Et ce poème n'est pas sans rappeler le poème qu'on a déjà vu au chapitre 1, qui était au sujet de ce monde où on a vu que tout bouge et en même temps rien ne change. Il y a un cycle infernal. Et dans ce poème au chapitre 3, l'Ecclésiaste nous parle du temps et de notre expérience du temps. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute activité sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour construire. Il y a une certaine beauté dans ce que l'Ecclésiaste dit, une certaine cadence qui rythme ce poème, une cadence qui cadre bien avec la vie telle que nous l'expérimentons. L'Ecclésiaste propose 14 contrastes, donc avec dans chaque contraste, donc deux parties bien sûr, donc 28 ans. Il n'y a pas forcément un ordre dans ce qui est dit, mais le fait que tout est en chiffres qui se divise par 7, dans la pensée hébraïque, c'est le chiffre de la perfection. L'Ecclésiaste nous parle de la totalité de la vie, tout ce qui se passe dans la vie. C'est pour ça qu'il commence en disant un temps pour naître, un temps pour mourir. Nous sommes tous quelque part entre ces deux points. Voici les temps habituels de la vie humaine. Voilà la vie humaine. Nos vies sont rythmées par ses activités, par ses saisons. Il y a toujours quelque chose que nous sommes en train de faire, toujours quelque chose que nous sommes en train de vivre. Et la vie est souvent assez contradictoire, parce que par moments on va construire, mais après on va démolir ce qui a été construit. On va planter, mais ensuite on va arracher ce qu'on a planté. Et c'est vrai, il y a des moments de joie, mêlés de moments de tristesse, de lamentation. Alors dans ce poème, il pourrait y avoir l'idée d'un temps approprié pour chaque chose. Mais ce n'est pas forcément ça, ça dépend. Il pourrait simplement s'agir des choses qui nous arrivent dans la vie. Dans la vie, typiquement, il y a un temps pour chacune de ces choses. Parfois, ces contrastes nous parlent de choix qu'il faut faire. Parfois, il faut faire la paix. Et parfois, il faut partir à la guerre. Parfois, il faut chercher un objet perdu. Mais à d'autres moments, il faut cesser de chercher. C'est un peu comme les experts ont cherché pendant longtemps cet avion de la Malaysia Airlines disparu avant de décider à un moment donné que ça ne valait plus la peine de chercher. Alors comment est-ce qu'on interprète ce poème ? Qu'est-ce qu'il nous dit exactement au sujet du temps ? L'Ecclésiaste lui-même s'en est lassé. Pour y avoir réfléchi, il a ressenti une profonde fatigue, une lassitude. Et c'est pour ça qu'il dit tout de suite après au verset 9, « Mais quel avantage, tout ce temps, mais quel avantage ?» Celui qui agit, retire-t-il de la peine qu'il se donne ? Le temps se répète, mais de manière ultime, le temps file. Nous remplissons nos vies de ses activités. Il y a toujours quelque chose à faire, même quelque chose qui est approprié pour le moment. Pour beaucoup d'entre nous, j'imagine que la semaine a été chargée et la semaine prochaine le sera aussi. Une sorte de frénésie, on n'arrive pas à nous arrêter. C'est la course. Et vers où ? Notre temps est aussi comme un compte à rebours. On est tous nés, on va tous mourir. Et entre-temps, il y a ces activités. Et à la longue, ne change rien. Même si ces choses nous sont données par Dieu. C'est Dieu qui nous donne ces choses à faire. Ce que nous plantons sera arraché. Même les relations dans lesquelles nous investissons ont en quelque sorte une date de péremption. Nos amitiés, nos mariages. La mort nous attend tous. Et nous serons un jour tous au cimetière. C'est vrai que l'Ecclésiaste n'y va pas par quatre chemins, n'est-ce pas ? Son aiguillon perce nos illusions. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous montre comment le temps, le passage du temps, dévoile notre fragilité. Certes, tout n'est pas noir, il le dit lui-même, la vie est parfois belle. Il y a de la joie, des naissances, le rire, des danses. Et en même temps, ça passe. Et notre expérience du temps est marquée par la futilité, parce que nous sommes des créatures mortelles. Nos vies sont éphémères. Et la vie et le temps est vécu, expérimenté comme un compte à rebours. Le verset 10 indique que c'est Dieu lui-même qui nous a donné ces choses à faire. Ces choses ne sont pas ridicules. Il y a un moment pour tout. Mais c'est aussi lui, Dieu, qui a fait que notre vie soit un compte à rebours. Elle est marquée par la mort. L'Ecclésiaste médite sans doute sur les premiers chapitres de la Genèse. Et la Genèse nous dit que la mort est la conséquence logique de notre rébellion à l'égard de Dieu. Notre péché à son égard. Dieu a abrégé nos vies. Et le temps qui file nous rappelle notre mortalité. Vous vous êtes levé ce matin. Je ne sais pas à quelle heure vous vous êtes levé, peut-être à 7h, 8h. Il est déjà 10h30, 2-3 heures sont passées. Le temps file. Ça nous rappelle que nous sommes des créatures mortelles. Si nous devions nous arrêter là, je pense qu'on serait assez déprimés. Peut-être vous l'êtes déjà. C'est vrai que ces dernières semaines, en préparant ces messages, ma femme a dû entendre des discours sur la mort et des choses comme ça. Mais si on devait s'arrêter là, c'est vrai que ça serait déprimant. Mais l'Ecclésiaste a plus de choses à dire, et je pense que de manière globale, les versets qui suivent, l'Ecclésiaste veut nous montrer que c'est Dieu qui est Dieu, et nous ne sommes pas Dieu. Et quand nous réalisons ça au fond de nos cœurs, même si ça a l'air évident, quand nous réalisons ça dans nos cœurs, quand nous acceptions ça, quand nous vivions ce fait que c'est lui qui est Dieu, et que nous sommes ses créatures, nous sommes sur la bonne voie, la voie de la sagesse. Alors dans les versets 10 à 15, l'Ecclésiaste médite sur la grandeur de Dieu et constate que Dieu est tout autre, bien supérieur à l'homme, parce que Dieu est éternel et le temps lui appartient. Donc c'est notre deuxième point, Dieu est éternel, immortel. Le verset 11 évoque le fait que Dieu a mis la notion de l'éternité dans nos cœurs, dans le cœur de l'homme. Dans ce sens, ça c'est quelque chose d'étrange, parce que nous sommes des êtres mortels, nos vies sont limitées. Mais en même temps, malgré tout ça, tout en nous aspire à l'éternité, à quelque chose qui dépasse nos vies limitées. Nos grands hommes veulent laisser derrière eux un héritage, souvent un bâtiment à Paris, un livre, une réputation, quelque chose pour les livres d'histoire, parce qu'ils veulent vivre éternellement dans le souvenir. C'est une manière de tenter de dépasser la futilité de la mort. On lutte contre cette mortalité, mais en vain, parce que ce qu'on laisse derrière nous ne dure pas. De plus, c'est pas la vie. Dans un sens, nous savons que nous étions créés pour vivre éternellement. Nous n'étions pas créés pour mourir. Nous nous intéressons à l'avenir. On veut cet avenir. Cet avenir loin au-delà de nos existences. Cette notion de l'éternité, dans nos cœurs, nous rappelle notre mortalité. Et elle nous renvoie aussi vers Dieu lui-même. Dieu est éternel. Dieu maîtrise le temps de l'éternité. Si Dieu l'a mise dans nos cœurs, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose dans l'éternité. Parce que nous sommes limités, mortels, on n'arrive pas à saisir ce que Dieu est en train de faire. On sait qu'il a tout créé bon au début. On sait qu'il n'est pas l'auteur du mal. Ce n'est pas lui le traître. Il a fait, ou il fera, ça dépend de l'interprétation, toute chose belle au moment voulu. Mais nous, on n'arrive pas à saisir comment il va le faire. L'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Et il est en train de le faire quelque chose. Il est le Dieu de l'éternité. Et cette notion de l'éternité dans nos cœurs nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu. Et lui, il est bien Dieu. Il est le Dieu éternel. Le serpent dans le jardin d'Éden avait dit que l'homme ne mourrait pas. Au contraire, il deviendrait comme Dieu. Quel mensonge. La notion de l'éternité dans notre pensée, dans nos cœurs, dans nos aspirations, nous déclare que c'est Dieu qui est Dieu. Et nous ne le sommes pas. Nos œuvres sont fragiles, passagères. Nos vies ne durent pas. Mais ses œuvres durent éternellement. Ecclésiaste ne veut pas nous faire sombrer dans la déprime. Il ne veut pas que nous vivions comme des nihilistes, c'est-à-dire que pour le plaisir, que pour le moment présent. Non, il veut nous apprendre à vivre en tant que créature obéissante. Nous ne sommes pas Dieu. Cette vie de compte à rebours nous montre que nous sommes bien limités, bien petits face à ce Dieu qui maîtrise l'éternité. Dans notre orgueil, parfois, on pense pouvoir maîtriser notre temps, même maîtriser notre souvenir, le souvenir et l'éternité. Mais nous oublions qu'il n'y a qu'un seul qui puisse faire ça. Ecclésiaste nous invite au verset 12 à la reconnaissance simple pour les bonnes choses que Dieu nous donne. Et au verset 14, à la crainte saine devant Dieu. C'est lui qui nous donne le temps qui nous alloue. Et c'est lui qui veille sur l'éternité. Et Dieu sait ce qu'il fait. Je pense que nous en savons un peu plus, puisque l'Ecclésiaste, sur comment Dieu va faire toutes choses belles au moment voulu. Parce qu'en Christ, bien des années après la vie de l'Ecclésiaste, on a un avant-goût. Jésus a vaincu la mort et on sait que Dieu est en train de mettre toutes choses sous ses pieds. Mais en même temps, nous ne savons pas tout. Dans cette vie, on a parfois bien du mal à comprendre ce que Dieu est en train de faire, pourquoi Dieu permet certaines choses. Mais comme l'Ecclésiaste, nous avons une certitude, nous savons qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Il fait toutes choses belles en son temps. Nous savons qu'il maîtrise le temps et l'éternité. Son royaume viendra au moment voulu. Et en attendant, nous pouvons recevoir la vie comme un cadeau, comme un don. Le vivre, la vivre cette vie en remerciant Dieu pour ce qu'il nous donne. Même cette vie avec ses hauts et ses bas, avec ses contradictions. En rachetant le temps, en craignant Dieu, en craignant son Fils, Jésus, par qui son œuvre d'éternité s'accomplira. Ce compte à rebours, à la lumière de l'éternité, est en quelque sorte salvateur, parce qu'il nous montre que nous ne sommes pas Dieu, mais Dieu est Dieu. Et quand nous réalisons ça, nous saurons comment vivre. Nous nous soumettrons à lui, le Créateur, dans la simplicité, dans la reconnaissance et dans la crainte qui lui est due. Alors dans les versets 16 à 17, un peu plus loin, l'Ecclésiaste semble changer de sujet, mais en réalité, il nous parle du temps. Il évoque un temps de jugement. Encore une fois, cette section sert à souligner le fait que c'est Dieu qui est Dieu, nous ne le sommes pas. C'est Dieu qui règne, c'est notre troisième point. L'Ecclésiaste évoque au verset 16 l'injustice qu'il a vue sous le soleil. Il évoque des juges corrompus qui, au lieu de juger droitement, avec justice, ont profité de leurs fonctions, de leurs institutions, pour promouvoir la méchanceté. Il ne faut pas aller très loin dans l'histoire pour voir, pour constater ce genre d'injustice institutionnelle. Ce vendredi a été la journée de commémoration de l'Holocauste. L'administration du Troisième Reich a permis, a administré la solution finale. Dans ma jeunesse, l'apartheid régnait en Afrique du Sud. Ségrégation des soi-disant races différentes existait jusqu'aux années 60 aux États-Unis. Au siècle passé, le racisme des régimes coloniaux européens était codifié. Aujourd'hui, les lois sur l'avortement confondent les droits des femmes et les droits des enfants à naître, avec des conséquences dramatiques. Et l'Ecclésiaste constate ça. Il voit cette situation inique, écœurante. L'homme met le mal à la place du bien. L'homme sait, quoique de manière abîmée, quelle est la loi de Dieu. L'apôtre Paul nous dit qu'elle est écrite dans notre conscience, mais nous la supprimons. Le simple fait que nos cœurs sont écœurés par cette injustice que nous constatons nous montre que nous avons une loi écrite sur nos cœurs. Et si elle est là, écrite sur nos cœurs, c'est parce que quelqu'un y a mise. C'est Dieu qui a écrit ça sur nos cœurs. La nature, le hasard n'a pas fait ça. Il n'y a pas de bien et de mal absolu par le hasard ou par l'humanisme où il n'y a que l'homme. Si Dieu l'a écrite dans nos cœurs, ça nous montre qu'il est bien là et que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui détermine le bien et le mal. Ce n'est pas l'homme qui peut faire ça. Dans le jardin d'Éden, l'homme pensait pouvoir être comme Dieu. C'est la tentation. Il voulait déterminer lui-même le bien et le mal. Et dans un sens, il y est arrivé. Et Dieu le reconnaît à la fin du chapitre 3 de la Genèse. Mais quand l'homme détermine le bien et le mal, c'est le chaos qui s'ensuit. C'est l'injustice qui prévaut. C'est la confusion la plus totale. Parce que l'homme n'est pas Dieu. En fait, son injustice le lui montre. Mais heureusement, Dieu est Dieu. Et puisqu'il est Dieu, parce qu'il détermine le bien et le mal, parce qu'il est juste et bon, il en conclut, c'est forcément vrai. Il jugera. Dieu jugera tout homme. Ça, c'est la conviction de foi de l'Ecclésiaste, verset 17. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera. Car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. L'Ecclésiaste n'est pas un athée. Il sait d'une manière ou d'une autre qu'à un moment donné, les pendules seront remises à l'heure, que le Dieu créateur qui est là interviendra. Quand on pense à toutes les injustices au monde, ça devrait nous rassurer. Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas insensible, Dieu n'est pas injuste. Il y a un temps marqué pour sa justice. Et en fait, il l'a déjà prouvé. Dans la lettre de Paul aux Romains, dans le Nouveau Testament, nous lisons « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a déjà montré sa justice dans l'histoire. Parce que son jugement est tombé sur Jésus, sur son Fils. Un juste jugement. Ce jugement est le jugement qui devait tomber sur chacun de nous, sur tous ceux qui ont mis la confiance en Jésus. C'était le jugement, notre jugement du dernier jour, mais qui tombait avant l'heure sur Jésus. Comme ça, nous pouvons trouver en Jésus un refuge sûr de ce jugement à venir. Ce jugement que le Père a confié à Jésus. Ce jugement passé dans l'histoire il y a 2000 ans. Et aussi celui à venir à la fin du temps nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes bien petits, bien limités, bien pécheurs, bien corrompus jusqu'au moindre recoin de nos cœurs. Et nous dépendons de Dieu pour toutes choses. Et surtout pour ce salut, ce pardon qui est son œuvre du début jusqu'à la fin. On va conclure avec un dernier point qui montre encore une fois que c'est Dieu qui est Dieu et nous ne le sommes pas. Dieu sait toutes choses. Et dans les derniers versets de notre passage ce matin, l'Ecclésiaste termine en méditant sur la mort. Et c'est une section qui nous choque un peu. En fait, il commence en disant que Dieu veut choquer l'homme. Verset 18. Je me suis dit dans mon cœur à propos des humains que Dieu les mette à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Et comment est-ce que Dieu fait ça? Verset 19. En effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, puisque tout n'est que fumée. Tout comme les animaux meurent, les hommes et les femmes meurent. Tout va au même endroit. Tout a été fait à partir de la poussière, et tout retourne à la poussière. Et l'Ecclésiaste est comme scandalisé. Comment est-ce possible? Le même sort que les animaux, que les bêtes, c'est abrutissant pour l'homme. C'est profondément humiliant pour l'homme. Encore une fois, sa mortalité, son sort, lui rappelle qu'il n'est pas Dieu. Il ne maîtrise rien. Il ne dure pas. Alors, si l'Ecclésiaste est scandalisé, c'est parce qu'il connaît les Écritures. Il sait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé pour régner sur la création, pour représenter Dieu, pour être ses ambassadeurs, en quelque sorte. Et la mort, la sanction que Dieu a infligée sur l'homme, l'a humilié. Il partage le même sort que les bêtes. Son corps retourne à la poussière. Alors le verset 21 n'est pas facile à traduire, mais je vais suivre la traduction de la Bible du Sommeur, qui le traduit comme ceci. « Qui peut dire ce qu'est l'esprit de l'homme, celui qui se dirige vers le haut, et ce qu'est le souffle de la bête, celui qui descend en dessous de la terre ?» Je ne pense pas que l'Ecclésiaste ne sait pas si l'esprit de l'homme est traité différemment de celui des bêtes. Non, je pense qu'il sait que l'esprit de l'homme est différent. C'est pour ça qu'il a parlé du jugement, au verset 17. C'est pour ça qu'il a parlé de la notion de l'éternité dans nos cœurs. L'homme sait qu'il est différent. Mais parfois, il ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Il ne sait pas à quel point il est différent. Il ne sait pas ce qui va l'attendre quand il meurt, quand son esprit se dirige vers le haut. Pourquoi est-ce qu'on a si naturellement peur de la mort, peur de ce qui nous attend? Même l'athée semble avoir peur. Il se demande ce qu'il attend. Cette ignorance fait peur. Même le croyant en Christ, jusqu'à un certain point, peut redouter ce moment. Je pense que nous savons au fond de nous-mêmes, comme l'Ecclésiaste le sait, que nous sommes des créatures créées à part et que nous sommes redevables à notre Créateur. Nous ne sommes pas que des bêtes. Même si nous partageons à la suite de la rébellion de l'homme ce même sort, cette même mort humiliante. Depuis que l'Ecclésiaste a rédigé ce livre, ou son éditeur rédigé ce livre, cette ignorance a cédé un peu à la lumière. Au fur et à mesure que Dieu se révèle dans la Bible, nous savons un peu plus sur le sort de l'homme, le sort de l'esprit, son esprit qui se dirige vers le haut pour rencontrer son Créateur. Jésus-Christ a été très clair quant au jugement à venir, sur l'existence de l'enfer, l'existence de la nouvelle création avec Dieu. Il y a une existence au-delà de la mort. C'est Dieu qui détermine tout ça. C'est Dieu qui détermine ce qui nous arrive. C'est lui qui sait ce qui va nous arriver. C'est lui le Créateur. Nous ne sommes que des créatures. Même le croyant, celui qui a mis sa foi en Jésus, qui a reçu le pardon, qui vit l'adoption, n'a pas beaucoup d'informations sur ce qu'il attend. Ça peut parfois l'inquiéter. Il ne sait pas trop à quoi s'attendre. La Bible ne révèle pas énormément de choses sur cette nouvelle création. Mais nous savons que c'est une existence avec Dieu notre Père, ce Père saint et aimant. qui par grâce nous a lavés par le sang de son Fils. C'est une existence où nous connaîtrons Dieu parfaitement. Ce Dieu souverain d'amour, on sera avec lui, ça sera relationnel. Il n'y aura plus de larmes, nous serons consolés. Nous aurons la vie et cette éternité qu'il a mise dans nos cœurs. Et en attendant, nous vivons ici-bas, dans ce temps marqué par la frustration, dans ce temps passager, qui trouvera sa parenthèse dans notre mort avant le jugement de Dieu. Cette mort est humiliante, c'est vrai. Et en quelque sorte, elle est une grâce aussi. En quelque sorte, c'est une grâce que Dieu a abrégé nos vies. Il ne nous a pas laissés dans notre arrogance, dans notre orgueil, cet orgueil où nous voulions être comme lui, être des dieux sans lui. En fait, ça serait été un enfer terrible, le mal à tout va. Et c'est dur de voir le passage du temps, de voir la construction suivie de la démolition et ensuite la construction, ou la paix suivie de la guerre, ou l'inverse, naissance suivie de la mort. Et tout ça nous apprend à regarder vers celui qui est immortel, éternel, et à vivre chaque instant de nos vies comme un don, comme un cadeau qui vient de sa part. Ça nous apprend à être des créatures qui dépendent de lui, et qui le craignent pour qui il est vraiment, notre Dieu souverain, le maître du temps, le maître de nos vies. C'est lui qui a l'éternité dans ses mains. C'est lui qui a notre éternité dans ses mains. Pour le chrétien, cette crainte n'est pas une crainte servile, la crainte d'un esclave qui a peur de se faire battre. Et c'est le profond respect pour un Père qui nous aime et qui nous a unis à Jésus, son Fils. Dans sa bienveillance, Dieu veut que nous réalisions que c'est lui le vrai Dieu, seul Dieu, et que nous ne sommes pas Dieu. À plusieurs reprises dans la Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament, nous lisons cette parole. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand nous vivons cette humilité devant lui, nous réalisons notre dépendance de lui. Quand nous recevons cette vie, tout ce qui nous arrive dans la vie, ces activités de la vie, quand nous les acceptons avec simplicité, avec reconnaissance, quand nous acceptons, quand nous réalisons qu'on a besoin de son pardon, qu'on réalise qu'on a besoin de son Fils, nous sommes là sur la bonne voie, la voie de la sagesse. Et ça, c'est ce que l'Ecclésiaste veut nous apprendre à faire avec le temps que Dieu nous donne. Je vous invite à la prière. Notre bon Père Céleste, nous voulons confesser que nous sommes si souvent arrogants, orgueilleux. Nous pensons que nous pouvons vivre dans ta création à notre manière, comme ceux et celles qui déterminent le bien et le mal. Ils peuvent choisir par eux-mêmes ce qu'il faut faire. Et nous sommes orgueilleux. Et cet orgueil continue même en tant que croyants. Notre Père, nous voulons te dire pardon. Nous voulons te dire merci pour l'aiguillon de l'Ecclésiaste qui nous montre que nous ne sommes pas Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es immortel. C'est toi qui es éternel. C'est toi qui es juste. Notre vie dépend de toi. Et Père, nous voulons te remercier de ce que dans ta justice et dans ta bienveillance, au moment marqué, tu nous as donné ton Fils. Nous étions loin de toi dans l'orgueil, dans la résistance, dans la rébellion, mais tu nous as donné Jésus pour que nous puissions être réconciliés à toi. Et merci de ce qu'en lui nous pouvons recevoir ce don. Aide-nous à vivre ce don jour après jour dans la reconnaissance. Aide-nous à vivre le temps que tu nous donnes. Aide-nous à racheter le temps en suivant Jésus, même cette semaine. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen.